Nous allons maintenant nous tourner vers l'Ukraine et je voudrais commencer en appelant aux honneurs de la séance deux ambassadeurs de France que nous avons eu le plaisir d'entendre, Philippe Étienne aux États-Unis, Pierre Lévy sur la Russie, ainsi que Madame Priscilla Tofano, représentante du Fonds monétaire international en Ukraine. Je voudrais vraiment les remercier de leur présence aujourd'hui et leur dire combien, pour Philippe et pour Pierre, nous avons été heureux de les entendre. Mais aujourd'hui, nous aurons le plaisir, et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau un diplomate exceptionnel, Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine. Diplômé de l'ESSEC, de Sciences Po, titulaire d'une licence d'histoire, Gaël a été deux fois en poste à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne à Bruxelles, puis sous-directeur en charge des médias au Quai d'Orsay, conseiller de notre mission auprès des Nations Unies à New York. À Paris, il a été conseiller au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et il a été le directeur de cabinet des ministres des Affaires européennes Marielle de Sarnez, puis Nathalie Loiseau et enfin Amélie de Montchalin. Il a été notre ambassadeur en Croatie pendant 4 ans, puis, depuis 3 ans, il est notre ambassadeur en Ukraine. Outre ses brillantes qualités professionnelles, je veux souligner son courage et celui de tous ses collaborateurs. Représenter la France en Ukraine, c'est accepter de risquer sa vie au service de notre pays. Il y a 15 jours, il était en déplacement à Kramatorsk, la dernière grande forteresse ukrainienne dans le Donbass, soumise nuit et jour aux bombardements russes. Je voudrais le remercier vivement, en notre nom à tous, d'avoir accepté de venir spécialement de Kiev pour s'adresser à nous aujourd'hui. Cher Gaël, à toi la parole.
Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-David Lévit, Monsieur le Vice-président, Monsieur Aïm Corsia, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur Bernard Stiern, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Mesdames et Messieurs les académiciennes et les académiciens, Messieurs les ambassadeurs de France, Mesdames et Messieurs. Alors, on projette une carte ici qui en réalité sera assez anecdotique par rapport à mon propos, mais qui, le cas échéant, pourra permettre de préciser telle ou telle chose. Cette carte n'est pas totalement à jour, mais elle a le mérite d'être publique, puisqu'elle est sur le site du ministère des Armées. Donc, je suis très honoré, Monsieur le Président, que vous m'ayez convié à participer au programme de cette année consacrée aux transformations du monde, après l'intervention évidemment de notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a posé un cadre d'ensemble, puis celle de mon ancien collègue à Moscou, l'ambassadeur de France Pierre Lévy. Évidemment, je ne suis pas certain de pouvoir renouveler une approche conceptuelle en tant que telle, mais ce que je peux peut-être essayer d'apporter aujourd'hui, c'est de proposer au fond un angle de vue singulier depuis Kiev et une forme de témoignage aussi réfléchi que possible sur la situation, et puisqu'au fond, cette guerre menée par la Russie en Ukraine est certainement le symbole, mais à mon sens aussi le catalyseur de cette déconstruction de l'ordre mondial sur lequel vous réfléchissez, qui s'impose à nous, mais aussi de ce moment où finalement la déconstruction est certainement en cours et la reconstruction qui se prépare pourtant me semble encore bien lointaine et parfois hésitante. À titre personnel et individuel, au fond, nous n'y sommes pas toujours parfaitement préparés. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, lundi 20 avril dernier, j'étais à Kramatorsk. Donc Kramatorsk, c'est du côté de Pokrovsk, là-bas, sud-est de Kharkiv, qui est la plus puissante des dernières forteresses ukrainiennes dans le Donbass. C'est une partie de l'Ukraine que la Russie prétend déjà avoir annexé et qu'elle essaye de conquérir à tout prix. Et l'artillerie est déjà à portée de l'est de la ville, l'artillerie russe. Et c'est là que les forces russes se préparent à porter l'effort. Les habitants s'accrochent à ce qui reste de normalité dans leur vie, entre deux bombes planantes et des essaims de drones. Il n'y a pas un immeuble qui ne porte les scarifications de la guerre. Et au fond, je songeais, en sortant d'une voiture blindée accompagnée du GIGN qui était tout prêt à tirer sur d'éventuels drones FPV qui nous auraient menacés, je songeais que ma génération de diplomates, celle qui est rentrée au Quai d'Orsay fin 1997, avait grandi et appris fondamentalement pendant ce que Gérard Araud appelle, avec une pointe de provocation peut-être, mais assez lucide, les temps heureux. les temps où la guerre était devenue résiduelle, en tout cas pour les puissances européennes, et que le grand défi de notre génération, croyons-nous, était l'achèvement, la construction européenne et des règles qui, pensions-nous, alors protégeaient efficacement notre monde. Tout cela paraissait, au fond, assez loin. Alors peut-être un mot avant de rentrer dans le vif du sujet et en écho peut-être à ce que Jacques Delarosière vient de dire avec talent sur les diplomates italiens, enfin les ambassadeurs d'Italie qui ont servi en France. Évidemment, le travail d'un ambassadeur, c'est de rendre compte, évidemment, c'est l'analyse, évidemment, c'est de faire preuve en tout temps et en tout lieu de la plus grande objectivité et de la plus grande froideur, finalement. En même temps, il n'est pas totalement impossible de faire absolument abstraction du fait qu'étant en pause depuis près de 3 années en Ukraine, les frappes russes sur l'Ukraine me sont en partie destinées, moi et les agents de l'ambassade que j'ai l'honneur de diriger. Alors évidemment, je ne suis pas visé en tant qu'ambassadeur de France, ça va de soi, mais je suis visé comme habitant de Kiev, et quelque part, cela suffit. Je rappelle qu'en 2025, il y a eu 361 nuits de bombardement sur l'Ukraine. Cette intensité donne évidemment une coloration particulière au travail de l'ensemble des équipes. Représenter la France en Ukraine ne va pas totalement sans risque, mais en même temps, cela a évidemment un sens profond, celui de défendre les intérêts de notre pays, mais aussi d'agir très directement pour essayer de garantir au mieux sa sécurité qui est liée, comme celle de toute l'Europe, à ce qui se passe en Ukraine. Et au fond, c'est un peu de cela aussi dont je vais vous parler cet après-midi. Comme vous m'y avez incité, Monsieur le Président, je partirai donc de la situation sur le terrain, qui fait l'objet, je dois dire, avec l'ensemble de nos partenaires, y compris les États-Unis au niveau technique, en tout cas, d'une appréciation très partagée, avant de m'aventurer plus dans l'analyse de ce qui est devenu, de ce que veut, de ce que peut l'Ukraine, avec le soutien international dont elle dispose, et peut-être enfin d'évoquer ce qui est aussi impossible qu'inévitable, les grandes lignes de perspectives d'accord qui n'en finissent pas de se dérober, mais dont on voit bien, évidemment, la nécessité. Donc peut-être d'abord sur la situation aujourd'hui en Ukraine, qu'elle soit militaire, politique ou économique. En réalité, moi, ce qui me frappe, c'est que l'Ukraine a dû trouver dans cette guerre qui lui a imposé, et au bout de plus de 4 années de guerre, nous sommes entrés dans la 5e année, un équilibre qui est à la fois transitoire, incertain, mais qui, au fond, est réel. C'est vrai sur le plan militaire. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est la partie du territoire ukrainien qui est occupée par les forces russes, une partie depuis 2014, en réalité, Crimée, et une partie du Donbass. Et puis, voilà. Cette situation militaire, nous sommes dans une phase qui est relativement stable. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des phases de conflits particulièrement dynamiques. Pour donner un ordre de grandeur, avant février 2022, la Russie occupait avec la Crimée et une partie du Donbass à peu près 7% du territoire de l'Ukraine. Et au moment de l'attaque russe, dans les premières heures qui ont suivi l'attaque russe, les premiers jours qui ont suivi l'attaque russe du 24 février 2022 et de mars 2022, la Russie est parvenue à prendre jusqu'à 27% du territoire de l'Ukraine. Donc c'était effectivement une guerre tout à fait mobile, tout à fait dynamique. À partir de mars-avril 2022, des contre-attaques ukrainiennes qui se poursuivent en novembre 2022, les forces russes refluent et le pourcentage de territoire ukrainien qui est alors détenu par la Russie, ou contrôlé en tout cas par la Russie, est de 18%, avec pour les Ukrainiens des succès majeurs, dont dégager la ville de Kiev qui n'était pas prise mais qui était sous pression quand même. Les forces russes étaient à 1 km des locaux de l'ambassade de France, par exemple, qui s'était replié à l'époque à Lviv, avec le fait de dégager la ville de Kharkiv au nord-est, qui n'est jamais tombée, mais qui a été sérieusement sous pression, ou la reprise de la ville de Kherson au sud-est. Donc phase assez dynamique. Et ensuite, phase dynamique ukrainienne, puisque à partir de juin 2023, se lance une grande nouvelle contre-offensive ukrainienne, après celle de 2022, et l'espoir de reconquête. Moi, c'est le moment où j'arrive en Ukraine, en août 2023, avec cet espoir qu'au fond, on allait assister à une reconquête militaire ukrainienne, dont on verrait jusqu'où elle irait, mais qui devait être importante, mais qui, pour l'essentiel, en réalité, s'est brisée sur la ligne Sourovikine, du nom du général russe en charge, qui avait installé des lignes défensives qui sont avérées redoutables. Dernier moment, au fond, assez dynamique, l'incursion ukrainienne, cette fois-ci à Koursk, c'est-à-dire quand on voit Soumy sur la carte au nord-est, en face de Soumy, à course côté russe, entre partir d'août 2024 et jusqu'à mars-avril 2025. Donc, il y a eu des phases très dynamiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase fondamentalement statique. La Russie contrôle 19,5% du territoire ukrainien, c'est-à-dire, en fait, par rapport aux 18% de novembre 2022, depuis novembre 2022, 1,5% du territoire en plus. Alors, l'Ukraine est un grand pays, monsieur le président, plus grand que la France géographiquement, mais il n'empêche que depuis novembre 2022, on est quand même frappé par la modestie des gains territoriaux russes. Aujourd'hui, les objectifs russes n'en finissent pas d'être réestimés. Les objectifs officiels sont la reprise de la totalité du Donbass, donc Donetsk et Louhansk, et notamment donc la citadelle de Kramatorsk où je me suis rendu, qui sont des endroits où en fait l'Ukraine ne tient plus qu'une petite partie du territoire, mais où elle est très fortifiée. Et puis ailleurs, des pressions sur du côté de Zaporijja. Donc à Zaporijja, on parle toujours de Zaporijja parce qu'il y a la grande centrale d'Energodar qui est territoire contrôlé par la Russie. Mais derrière, il y a une grande ville, la ville de Zaporijja, qui, elle, est contrôlée par l'Ukraine. Et donc là, il y a des tentatives russes de pousser dans cette zone. La vérité, c'est que pour l'instant, ces tentatives sont bloquées par les contre-attaques ukrainiennes. J'ajoute, pour que le tableau soit complet, que vers Kharkiv ou vers Soumy, il y a des prises de gages territoriales russes, quelques kilomètres carrés, qui vraisemblablement sont destinés à former une espèce de glacis défensif, ou en tout cas pour stabiliser les choses du point de vue militaire pour les Russes. Côté ukrainien, cette situation de lent grignotage, très lent et très coûteux, côté ukrainien, évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce grignotage soit le plus coûteux en hommes possible pour la Russie. On estime qu'à Pokrovsk, les Russes ont perdu, c'est-à-dire tués ou blessés, jusqu'à 100 000 hommes pour une ville de 60 000 habitants avant la guerre, c'est-à-dire à peu près la taille de Montauban, ce qui donne une perspective intéressante, et que les forces russes auraient perdu, en tout et pour tout, à peu près un million d'hommes depuis février 22. Ce grignotage s'accompagne de villes totalement rasées, puisque la résistance opiniâtre de l'Ukraine fait qu'en réalité l'artillerie russe finit par progresser, mais en détruisant tout sur son passage, que ce soit Pokrovsk précisément, Avdiivka, Bakhmout ou d'autres. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que depuis février de cette année, il y a eu des avancées plutôt ukrainiennes, en réalité, avec une reprise d'à peu près 800 km², qui ont commencé au moment où les Ukrainiens ont réussi à négocier avec M. Musk qu'il n'y ait plus d'accès Starlink pour les forces russes déployées en Ukraine, ce qui a donné un avantage tactique ponctuel aux Ukrainiens qui en ont profité. Mais la vérité, c'est que ces reprises de territoire sont sans doute dans une logique un peu différente de ce qu'on a vu en 2022, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des libérations de territoires qui ont vocation à être pérennes, mais c'est plutôt de perturber l'avancée des troupes russes, d'obliger les forces russes qui étaient en train d'avancer à stopper, à revenir en arrière, et donc une dimension fondamentalement tactique à ce stade, dans cette progression. Au total, ce qu'on voit sur le front, c'est au fond une forme d'équilibre dans le déséquilibre, un déséquilibre du nombre, 700 000 Russes à peu près sur le front, 400 000 Ukrainiens en première ligne, au total dans tout l'ensemble de l'armée ukrainienne et les forces additionnelles que sont les forces combattantes de la police, des gardes frontières, de la garde nationale, à peu près 1 million d'hommes, un avantage d'artillerie russe évidemment, un avantage léger de drones ukrainiens, mais en réalité beaucoup de drones russes aussi, et partout autour de la ligne de front, donc au contact des zones colorées que vous voyez sur la carte, une zone d'au moins 20 km, parfois 40, qui est complètement neutralisée par les drones et où tout ce qui bouge est immédiatement détruit. Il y a un avantage russe très net pour ce qui concerne les nombres de missiles et de bombes planantes, d'avions de combat aussi, y compris en termes de production. À l'inverse, côté ukrainien, plus de matériel de qualité, plus de matériel moderne, plus de matériel occidental naturellement, et puis de plus en plus des matériels produits en Ukraine avec des capacités équivalentes, comparables aux matériels occidentaux. Pour vous donner un chiffre, début 25, les Ukrainiens étaient à 35 à 40% de matériel ukrainien utilisé par les forces armées ukrainiennes. Désormais, c'est 80%. ce qui montre une capacité d'adaptation, de montée en gamme. Enfin, sur le plan maritime, c'est très intéressant de constater que l'Ukraine, qui n'a plus de marine quasiment, a réussi à chasser presque totalement la flotte russe de la mer Noire, et elle a en tout cas la chassée de la partie la plus utile de la mer Noire, et à se rabattre sur les ports russes, notamment Novorossiysk, pour essayer de se mettre à l'abri des drones maritimes ukrainiens qui sont redoutablement efficaces. Régulièrement, il y a des annonces de grandes offensives militaires russes pour ce printemps, pour cet été. La vérité, c'est qu'à ce stade, aucun signe militaire clair de cela n'apparaît, et que notamment, il n'y a pas de signe de l'existence de réserves qui permettraient militairement à la Russie de pouvoir envisager quelque chose de très grande ampleur. Ça, c'est évidemment le côté purement militaire. Reste l'arrière, puisqu'après tout, c'est fondamental pour la résilience du pays. Ce qui est frappant, c'est que l'arrière et la société en général tiennent, que la guerre est au fond une donnée et n'est pas un objet de débat politique en Ukraine, et que les Ukrainiens se placent résolument encore, aujourd'hui, dans le temps de la guerre, et pas de celui de la politique. L'Ukraine tient par rapport à la guerre. Le point fondamental, mais vous le voyez sur la carte, c'est que contrairement à la France de 1870, par exemple, l'Ukraine n'a pas été défaite militairement. Il n'y a pas de risque que les troupes russes, dans un avenir quelconque, puissent défiler sur la place devant Sainte-Sophie. Alors évidemment, la population ukrainienne est épuisée. Évidemment, elle veut la fin de la guerre. Mais elle n'est pas prête à compromettre sur l'essentiel. Deux tiers des Ukrainiens ont une connaissance proche ou un membre de la famille qui a été tué ou blessé. Mais les sondages montrent que 83% des sondés refusent toute réduction des effectifs ou des capacités des forces armées ukrainiennes, qui sont perçues comme la garantie fondamentale de la sécurité de l'Ukraine, à juste titre. 84% refusent toute concession de iure de territoire. Et que malgré l'hiver dernier, qui était un hiver terrible, il a fait moins 25, et les Russes ont systématiquement ciblé les capacités de production énergétique et de distribution électrique. Donc malgré un hiver terrible, à moins 25, il y a eu finalement assez peu de départs. Le maire de Kiev avait annoncé à un moment donné qu'il y aurait des départs d'au moins 500 000 personnes sur une ville de 3,5 millions d'habitants. Ça ne s'est pas passé, les gens sont restés, et moi-même à Kramatorsk, j'ai constaté des gens qui essayaient désespérément de garder une vie aussi normale que possible dans un contexte qui en réalité ne l'était guère. Dans ce contexte-là, il y a une situation politique intérieure qui est assez particulière, qui est celle précisément d'un pays en guerre, qui est prêt, au fond, à rester en guerre pour l'instant. Les sondages montrent très clairement que la population ne veut absolument pas d'élection avant un cessez-le-feu, enfin, si possible avant la paix, mais en pratique avant un cessez-le-feu. La légitimité du président Zelensky, dont la durée normale du terme du mandat a été dépassée, mais dont la légitimité politique et juridique est garantie par les dispositifs propres à l'Ukraine en guerre, notamment la loi martiale. Cette légitimité est incontestée en Ukraine. Aucune figure politique nationale, au fond professionnelle, c'est-à-dire les membres de la Rada, ne représente aujourd'hui une alternative politique forte. Donc, pour parler des personnalités politiques les plus connues, l'ancien président Poroshenko est à peu près à 8% dans les sondages, l'ancienne première ministre Timoshenko est à peu près à 5%. Donc les vraies alternatives politiques, toujours mesurées par les sondages, on ne porte aucun jugement, mais je constate, sont plutôt des gens qui aujourd'hui ne sont pas en état, ou ne sont pas dans une position qui leur permette de faire campagne, soit le général Zaloujny, ancien chef d'état-major des armées, désormais ambassadeur à Londres, ce qui évidemment est une position qui n'est pas compatible avec une campagne politique active, le général Boudanov, ancien général chef du renseignement militaire et désormais équivalent du secrétaire général de la présidence de la République côté ukrainien. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que toutes les oppositions politiques au président Zelensky sont au fond dans une logique au fond de surenchère et souhaitent une ligne plus dure vis-à-vis de la Russie encore que n'est celle des autorités ukrainiennes. Donc il n'y a pas de force politique aujourd'hui en Ukraine qui soutiendrait une paix rapide dans des conditions défavorables pour l'Ukraine. Alors évidemment, tout ça peut évoluer très vite. La loi ukrainienne précise qu'une fois que la loi martiale est levée, les élections doivent être organisées en 90 jours. Mais à ce stade, nous n'y sommes pas. Ce n'est pas le temps de la politique. Ça reste le temps de la guerre. Et évidemment, les conditions de fin du conflit ou de cessez-le-feu auront un impact politique majeur. La situation sera très différente suivant que le cessez-le-feu, quand il viendra, sera perçu comme avantageux pour l'Ukraine ou pas trop désavantageux. Auquel cas, évidemment, ce sera à l'avantage du président Zelensky qui l'aura porté... Il aura porté dans ses bras, en quelque sorte, ou bien si, au contraire, la perspective, c'est que la perception, c'est que les conditions ne sont pas justes ou pas suffisantes pour l'Ukraine. Et enfin, est-ce qu'il y aura des garanties de sécurité crédibles et tangibles, ou en tout cas perçues comme telles, par les Ukrainiens ? Un mot peut-être pour quand on parle de la situation sur les fondamentaux qui structurent la population ukrainienne, parce qu'en réalité, ils ont beaucoup évolué. L'Ukraine est un pays qui, je crois, a beaucoup changé, forgé par le traumatisme de 2014, mais surtout par la guerre. Je crois avoir lu, Monsieur le Président, dans vos propos introductifs à ce cycle, que vous aviez écrit « Poutine détruit un pays et fait une nation ». Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé, et qu'il a réussi ce tour de force d'unir contre lui et contre la guerre qui est imposée à l'Ukraine, un pays qui, historiquement, a toujours été très divisé entre Est et Ouest, entre ukrainophones et russophones. Cette question de la langue est aujourd'hui fascinante, puisqu'aujourd'hui, c'est la fin de l'équation qui voulait que quelqu'un qui parle russe soit au fond, en tout cas ait des intérêts en Russie, voire soit favorable à la Russie. Ça, c'est très net. Et on le voit dans tous les domaines. Il y a une grande partie des soldats ukrainiens qui, en réalité, se font tuer pour l'Ukraine aujourd'hui en russe, parce que c'est leur langue, c'est la langue qu'ils parlent. Et par ailleurs, chez les écrivains, chez les intellectuels, quelqu'un de très intéressant comme Andrei Kourkov, qui est un écrivain qui vit en partie à Paris, qui explique que quand il écrit un roman, il écrit en russe, parce que c'est sa langue du roman. Quand il écrit un documentaire, un article de presse, une analyse pour un journal, il écrit en ukrainien, parce que ça lui vient comme ça. Au fond, c'est la fin, enfin, en tout cas, c'est la démonstration que la vision russe du Ruski Mir, c'est-à-dire de cet espace russe qui est l'espace où l'on parle russe, en tout cas trouve sa limite, en tout cas en Ukraine, et c'est une tentative de réponse à cette posture au fond impériale de la Russie. On dit beaucoup en Ukraine que Vladimir Lénine aurait dit « si la Russie perd l'Ukraine, elle perd la tête ». Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas retrouvé la référence. Donc le premier point, c'est l'unité du pays, contre la Russie, naturellement. Le deuxième point, c'est la volonté européenne. Et je veux dire, ça, c'est extrêmement frappant. C'est frappant dans les sondages. 85% des Ukrainiens sont pour l'adhésion à l'Union européenne. Et quand on leur demande... Est-ce que vous êtes pour l'adhésion à l'européenne, 85%, si on leur demande, est-ce que vous êtes toujours pour l'adhésion à l'Union européenne, sachant que ça va être difficile dans certains domaines, notamment l'agriculture, qu'il y aura des normes, de la bureaucratie, que c'est compliqué. Dans ce cas-là, en posant la question comme ça, il y a toujours 67% des gens qui sont pour. La confiance dans l'Union européenne, mesurée par les sondages, est de 72%. De façon intéressante, elle est de 53% pour l'OTAN. C'est sans doute un clin d'œil par rapport aux États-Unis. Et moi, c'est ce que je constate, à la fois dans les élites à Kiev, mais aussi partout, en province, dans les classes moyennes. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire compréhension profonde de ce qu'est le projet européen. Au fond, c'est un choix politique. C'est surtout le choix de ne pas être dans le monde russe, en réalité. C'est un choix de valeur. Mais au-delà de ça, ça ne garantit pas une compréhension ni des modes de fonctionnement de l'Union européenne, ni du fait que, par nature, la construction européenne ne relève pas du jeu diplomatique à somme nulle, un peu traditionnel. Et ça, il y a évidemment beaucoup de travail pour le faire comprendre. Il y a un corollaire à cette volonté européenne, qui est l'appétit de réforme. Car tout le monde en Ukraine... il y a un vrai appétit pour les réformes. Et de fait, il est extrêmement frappant de voir que donc ces réformes qui, en gros, ont été lancées depuis 10 ans, la création des agences indépendantes comme le NABU ou du procureur indépendant comme le SAPO pour lutter contre la corruption, ça fait 10 ans. Mais ces réformes sont beaucoup accélérées avec la candidature à l'Union européenne, sachant que le président Zelensky avait présenté la candidature de son pays quelques jours seulement après l'attaque russe du 24 février 2022, et que l'Ukraine va vite. L'Ukraine va très très vite pour adopter les normes qu'on lui demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des déceptions ou des retours en arrière ponctuels ou des points qui appellent la vigilance, mais en réalité, l'Ukraine reste très motivée et très volontaire pour faire ses réformes. Le troisième point sur les fondamentaux, que j'ai appelé les fondamentaux en quelque sorte, c'est un peu le corollaire des deux autres, et c'est le refus de toute confiance accordée à la Russie, avec l'idée qu'au fond, la Russie n'a jamais tenu parole vis-à-vis de l'Ukraine, qu'elle n'a pas tenu parole au moment du mémorandum de Budapest, qui est un point un peu anecdotique, mais qui pour les Ukrainiens est absolument fondamental. C'est ce moment où les Ukrainiens, qui avaient hérité de l'Union soviétique une partie de l'arsenal stratégique, donc nucléaire, militaire, soviétique, l'Ukraine a accepté de se démettre de ses armes, de les renvoyer en Russie en échange de garanties de sécurité signées par, à la fois à l'époque, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Et force est de reconnaître qu'en tout cas, la signature russe n'a pas été honorée. De même, les Ukrainiens considèrent que l'attitude russe après les événements de 2014, le processus de Minsk et celui de Normandie n'était pas de bonne foi. Ce qui est sans doute vrai, même si eux-mêmes n'avaient pas forcément rempli toutes les conditions à l'époque qui étaient nécessaires. Enfin, évidemment, il y a la justification politique russe de la guerre de 2022, qui évidemment en Ukraine laisse songeur, dont je rappelle que Vladimir Poutine a dit: j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine pour que, libérés de cette oppression, les Ukrainiens puissent librement choisir leur avenir. Donc évidemment, ça rend les choses difficiles. Donc cet équilibre, il est là, c'est aussi un équilibre économique en réalité. L'Ukraine est en situation évidemment économiquement très difficile. Le budget de l'État est construit sur une impasse au sens budgétaire du terme de quelques 40 milliards de dollars ou d'euros, mais il est couvert au fond par l'appui budgétaire étranger. Donc cet équilibre est certain, enfin pour l'instant on le constate. Toute la question c'est combien de temps est-ce que cet équilibre est tenable ? Et évidemment il n'y a pas de réponse à cette question. À l'évidence, il n'est pas tenable éternellement. Je voudrais citer un jour une phrase que m'avait dite le général Burkhardt, à l'époque chef d'état-major des armées de passage à Kiev, et qui je crois est très vrai. Il avait dit: le problème c'est que tenir n'est pas une stratégie, au sens militaire du terme. Tenir n'est pas une stratégie. Évidemment, il a raison, à l'exception brillante de Koursk, dont on pourrait débattre d'ailleurs de est-ce que c'était une bonne idée ou pas à terme, mais on voit bien que c'est quand même que l'Ukraine est sur la défensive, que l'initiative militaire est russe. Alors, voilà. Le président Zelensky a annoncé il y a quelques jours qu'il y aurait une contre-offensive ukrainienne très forte dans quelques mois. Bon, tout est possible. Il n'est pas certain que l'Ukraine ait les réserves nécessaires pour faire quelque chose de très grande ampleur. Donc, première raison pour laquelle c'est quand même difficile de tenir, c'est que, évidemment, tenir n'est pas une stratégie. La deuxième, c'est l'attrition en hommes. L'Ukraine rencontre des difficultés évidentes de mobilisation. Le chiffre officiel de mobilisés par mois, c'est à peu près 30 000 personnes, mais à l'évidence, donc cette volonté se heurte à des difficultés qui ont appelé des réformes. Une nouvelle réforme vient d'être annoncée il y a quelques jours par le président Zelensky, avec des hausses très sensibles des soldes, notamment pour les soldats de première ligne. On verra si cela fonctionne. Et par ailleurs, la taille plus petite, beaucoup plus petite, trois fois plus petite, de l'Ukraine que par rapport à la Russie, fait que l'Ukraine a des pertes, plus de pertes proportionnellement, et que par ailleurs, ces pertes sont plus difficiles à remplacer. En Ukraine, même si beaucoup d'élites ukrainiennes, de fait, sont assez éloignées du quotidien de la guerre, il n'empêche que des intellectuels, des artistes, des gens de renom se font régulièrement tuer sur le front, et c'est une sociologie qui est évidemment différente des pertes russes. L'autre raison pour laquelle c'est assez difficile d'envisager que tout cela soit durable à terme, c'est les questions énergétiques. La Russie a réussi à détruire 80% des capacités de production thermique d'électricité ukrainienne. Le système, à l'hiver dernier, donc l'hiver 25-26, est passé au bord du gouffre. Il a tenu par l'extraordinaire agilité de l'Ukraine. Il a aussi tenu avec un zeste de chance. Les Ukrainiens ont reçu des livraisons de missiles antimissiles Patriot deux jours avant une attaque majeure qui aurait pu avoir un sort tout à fait différent si ça n'avait pas été le cas. Et le système énergétique ukrainien tient aujourd'hui énormément sur la production nucléaire, puisqu'évidemment, bombarder une centrale nucléaire serait prendre des risques totalement inconsidérés. Mais les forces russes s'adaptent en ciblant systématiquement les centrales de distribution électrique qui sont à côté des centrales. et donc de façon à empêcher l'exportation d'électricité par les centrales, ce qui en soi est assez dangereux puisque les centrales ont aussi besoin d'importer de l'électricité pour se refroidir. Donc elles ont des systèmes de secours, des diesels, etc. Mais disons que c'est quand même prendre un risque. Il y a une forme d'usure politique interne, même si, comme je le disais tout à l'heure, les gens n'envisagent pas d'élection à ce stade. Ça peut certainement durer encore des mois et peut-être un an ou deux comme ça, mais il y a quand même un moment où il y aura besoin d'avoir une nouvelle donne politique intérieure. Et c'est ce qu'on voit à la Rada, par exemple, avec des députés qui marquent une certaine forme de lassitude. Il y a un risque, enfin, de normalisation progressive de la Russie sous l'impulsion des États-Unis, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a la question de la dépendance au soutien économique externe à laquelle je faisais référence tout à l'heure. L'Ukraine a réussi l'essentiel, c'est-à-dire de réouvrir l'exportation de grains par Odessa, qui est le cordon ombilical économique de l'Ukraine. Il y avait au départ un accord avec les Nations Unies et la Russie pour ce corridor d'exportation. Les Russes, mi-23, ont mis fin à ce système. Et en septembre 2023, les Ukrainiens ont développé leur propre corridor, leur propre système, qui fonctionne en réalité très bien. Donc, au fond, si tout cela n'est pas totalement soutenable à terme, la question, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Et là, on est au cœur du mystère d'un peuple, finalement, et de sa résilience, un peuple qui est capable de passer des hivers à moins 25 sans bouger. Il est certain qu'à un moment donné, ça n'est plus tenable. Il est certain aussi que, pour l'instant, ça l'est. Le point qui me paraît le plus important dans tout ça, et c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent aux journalistes français, c'est qu'en réalité, sous le contrôle de Pierre Lévy, en réalité, il y a une asymétrie d'informations terrible quand on regarde la situation entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'au fond, la question, c'est lequel restera le dernier le plus longtemps sur le ring. Cette asymétrie d'informations, c'est que nous, occidentaux, nous voyons très très bien les difficultés de l'Ukraine. Nous les voyons parce que les ambassades peuvent travailler comme elles veulent, peuvent aller où elles veulent, peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent. Nous les voyons parce que les chaînes Telegram font que tout est ouvert. Et dès qu'il y a un problème, eh bien voilà, les gens s'en emparent, critiquent les autorités, expliquent que ça ne va pas du tout, etc. Tout ça est parfaitement visible. C'est évidemment pas la même chose en Russie. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut juste dire que ces problèmes ne sont pas visibles. En revanche, si on fait attention aux signaux faibles, il y a des signaux faibles. Le montant des primes d'engagement des jeunes Russes qui rejoignent l'armée russe, par exemple, est désormais très élevé. Le fait d'avoir recours à des mercenaires d'Amérique du Sud et d'Afrique, ou d'avoir dû avoir recours à 12 000 Coréens du Nord pour tenir la région de Koursk au moment où les forces armées ukrainiennes étaient rentrées à l'intérieur, dit quand même quelque chose sur les inquiétudes que le système russe peut avoir sur sa capacité à tenir cette guerre. Et puis, au fond, l'économie de guerre russe, qui était certainement très efficace et qui permet sans doute aussi des fortunes rapides et énormes, a tendance à dévorer l'économie réelle. Donc, vraisemblablement, la Russie ne peut pas continuer éternellement non plus. Donc, la question, c'est qui peut être le dernier à rester sur le ring si ça continue. De ce point de vue, évidemment, ce qui se passe dans l'étroit d'Ormuz, la guerre avec l'Iran et surtout la décision américaine de suspendre une partie des sanctions qui avaient été prises contre la Russie n'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine. D'abord parce que l'Ukraine est évidemment impactée, comme tout le monde, par l'augmentation des prix des hydrocarbures, mais aussi parce qu'on estime qu'il y a à peu près 4 à 6 milliards de dollars par mois qui arrivent en plus dans les caisses russes à cause de l'augmentation des prix du pétrole et de la levée partielle des sanctions américaines. Et que ces 4 à 6 milliards, évidemment, donnent une bouffée d'oxygène au régime russe pour la guerre. Si on réfléchit un tout petit peu plus avant, de notre côté à nous, évidemment, l'Ukraine tient aussi grâce au soutien occidental. La question, c'est quelles sont les limites dans le temps de ce soutien. Si on regarde par rapport à d'autres acteurs, alors évidemment, ce n'est pas du tout ce que disent les acteurs en question, et donc ils m'en voudraient beaucoup de dire ça, mais en réalité, on peut quand même penser que des acteurs comme la Chine ou la Turquie ont tout à fait intérêt à la poursuite de ce conflit qui permet d'affaiblir un concurrent historique, la Russie, tout en déviant des foudres possibles des États-Unis d'Amérique qui sont quand même obligés de s'intéresser un peu plus à la Russie qu'à la Chine, et qu'au fond, tout ça peut continuer comme ça. Pour aller un peu plus en détail, Monsieur le Président, sur la question de l'aide qui est apportée à l'Ukraine, puisqu'après tout, si la durée Si la durée du soutien et l'importance du soutien international à l'Ukraine est une dimension essentielle de la durée de la résistance de l'Ukraine, évidemment cette aide est stratégique. Peut-être un tout petit mot sans être trop détaillé, mais ce qui est frappant, c'est que l'aide du continent européen, donc États-Unis, Royaume-Uni inclus, et plus spécifiquement de l'Union, est clé depuis la fin de l'aide américaine. On estime depuis février 2022 l'aide européenne, c'est-à-dire au sens Union européenne et États membres, plus de 200 milliards de dollars. Là, je ne compte que l'argent qui a été effectivement versé, donc par exemple pas le prêt de 90 milliards que l'Union européenne a décidé de consacrer à l'Ukraine et dont les premiers versements devraient arriver d'ici la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. Sur ces 200 milliards, à peu près deux tiers d'aide civile, un tiers d'aide militaire. Côté américain, 115 milliards. Il y avait évidemment un effort majeur de USAID, puisque l'Agence de développement international américain, puisqu'elle consacrait à l'Ukraine 50% de son soutien mondial, qui était absolument considérable. Et comme vous le savez, cette agence a été dissoute par l'administration Trump et les moyens financiers qui restent, qui ont été rapatriés au département d'État, sont d'une ampleur totalement différente. Il n'y a pas d'aide nouvelle américaine sonnante et trébuchante qui soit vraiment, importante, même si, évidemment, d'abord, il y a la fin des livraisons qui avaient été prévues avant et qui, pour certaines, avaient pris du retard. Et puis, il y a des choses qui, sans aide de l'aide économique ou militaire, reviennent un peu au même, du partage de renseignements, ou enfin l'autorisation d'achat d'armes américains par les Ukrainiens ou par des tiers pour les Ukrainiens. Par exemple, dans le cadre du mécanisme Pearl, qui a été placé dans le cadre de l'OTAN, auquel la France ne participe pas, mais ou bien dans d'autres mécanismes du même type. On notera d'ailleurs que cette aide internationale, avec le temps, elle s'est adaptée au retrait américain, qu'elle s'est organisée de façon assez flexible en réalité. Et moi qui ai eu l'honneur de servir la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, sous l'autorité de l'ambassadeur Philippe Etienne notamment, ce qui me frappe aussi, c'est que cette aide, elle s'apporte de façon extraordinairement bien concertée entre l'Union européenne et l'OTAN. Il n'y a plus de querelle théologique entre ces deux organisations, en tout cas sur ce qu'on vient de faire en Ukraine. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est beaucoup grâce à la position française, d'ailleurs. Et c'est certainement quelque chose qui est tout à fait valorisable. Cette aide, évidemment, elle correspond aussi à des conditionnalités qui, elles-mêmes, doivent accentuer les réformes. L'Union européenne, mais aussi le FMI, jouent un rôle important pour les faire, de ce point de vue-là, d'aiguillon pour que les réformes se continuent. Et c'est une discussion pas toujours facile, mais importante, qu'il faut continuer à avoir avec nos amis ukrainiens. Au fond, l'aide, ce n'est pas seulement l'aide qu'on peut apporter, c'est aussi un soutien plus général, donc, auquel la France prend sa part, mais qui a aussi une dimension politique. Pour la part française, il y a évidemment une aide humanitaire de plus de 460 millions d'euros depuis le début de la guerre. Je ne vous donnerai pas le détail ici. Une aide de matériel, une aide de formation, au moins 20 000 hommes en Pologne et en France. Et puis, ce qui est caractéristique de l'aide française, c'est cette capacité à donner certains matériels militaires qui, eux-mêmes, ont été des déclencheurs, qui ont permis des effets de levier, puisqu'au fond, une partie de nos partenaires avait peur de l'escalade. Donc, notamment, la France a été la première à donner des chars AMX-10RC, qui sont des chars assez légers, des engins sans chenilles. À l'époque, la perception générale de nos partenaires, c'était que donner un char en soi était potentiellement participer à l'escalade. Le fait que nous ayons pu démontrer que ce n'était pas le cas a rendu possible la livraison d'autres chars par d'autres, y compris les chars allemands Léopard et les Abrams américains. La France participe aussi, a donné aussi des Mirage 2000, avec le même raisonnement, au fond, qu'il n'y avait pas de risque d'escalade particulier qui était lié à cela. Et puis derrière, il y a évidemment l'ingénierie diplomatique et l'accompagnement diplomatique et politique avec la mise sur pied de la coalition des volontaires pour les garanties de sécurité et la volonté d'essayer d'aider l'Ukraine à ne pas garder le contact, à ne pas perdre le contact plutôt, avec l'administration du président Trump. Dans cet appui, il y a évidemment aussi la perspective européenne de l'Ukraine, qui est essentielle pour répondre à ses aspirations politiques, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et qui est un facteur d'espoir important sur le terrain. Alors, bien sûr, quand on regarde cet aspect, il y a une tension inévitable entre cette approche qui, fondamentalement, est politique, et puis les règles de la politique d'élargissement qui est fondée non pas sur une approche politique, mais sur des mérites, et où les considérations diplomatiques sont résiduelles. Cette tension, elle est assez perceptible. Elle est due d'abord à une forme de volonté de réassurance de l'Ukraine. Et le président Zelensky insiste à chaque occasion sur la nécessité d'avoir, par exemple, une date pour l'adhésion, qui soit une date fixe, ce qui, évidemment, contrevient à tous les principes possibles, et qui, en réalité, est contradictoire avec la nature même du processus d'élargissement, parce qu'il considère que c'est une forme de garantie de sécurité pour l'Ukraine. De même, à un moment, lorsque les autorités hongroises bloquaient les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais avaient fait savoir qu'elles ne bloqueraient pas les négociations d'adhésion avec la Moldavie, se poser la question d'un découplage, c'est-à-dire que la Moldavie aurait peut-être pu avancer plus vite sur le plan formel, et c'était perçu extraordinairement, cette perspective était perçue de façon extraordinairement négative, voire agressive, par l'Ukraine, qui considérait que politiquement c'était absolument impossible. Au fond, avec un argument qui d'ailleurs manque pas totalement de justification, qui était que sans la demande d'adhésion ukrainienne à l'Union européenne, il est assez prévisible que la candidature de la Moldavie n'aurait pas été examinée de la même façon. Et par ailleurs, ce phénomène, donc, qui est bien enraciné en Ukraine, est aussi amplifié par l'administration américaine, peut-être parce qu'elle cherche une forme de compensation par rapport au refus de laisser entrer l'Ukraine dans l'OTAN, et parce qu'il y a cette idée que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ne serait pas inacceptable par la Russie. Ce qui reste d'ailleurs à examiner, puisqu'il y a des déclarations politiques russes qui disent que ce serait le cas, mais sur l'ensemble de conditions, notamment le fait que l'Ukraine ne rejoigne pas l'Europe de la défense, ne bénéficie pas de l'article de solidarité, de l'article 42.7, etc. La vérité, c'est que, et moi je crois que c'est important de le redire, c'est qu'à ce stade, aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction entre l'approche sur les mérites et l'approche politique s'agissant de l'Ukraine, parce que précisément, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, l'Ukraine mène tambour battant les réformes de grande ampleur et techniquement met un point d'honneur à répondre au fur et à mesure à ce qui est demandé par le processus d'élargissement. En réalité, même de façon anticipée, puisque comme le processus était bloqué sur le plan juridique par le Premier ministre Orbán de Hongrie, la décision qu'elle a prise, c'est de négocier techniquement, comme si le processus était lancé, et de pouvoir donc du coup avancer dans les réformes sans attendre. Alors ça ne veut pas dire naturellement que techniquement l'Ukraine serait prête à adhérer en 2027. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés de temps en temps. Mais le sens de l'effort est clair. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des arguments politiques forts côté ukrainien ou une volonté politique forte, une impatience ukrainienne forte pour rentrer dans l'Union européenne sans attendre que ça veuille dire qu'ils ne font pas les réformes. Et je pense que c'est important de se concentrer sur le fait qu'ils les font. Il y a toute une réflexion qui est en cours aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il est possible en 2027. Est-il possible d'avoir une forme de signal politique, un statut particulier qui ne soit pas l'adhésion, mais qui permette quand même à l'Ukraine de voir ses efforts reconnus. C'est une discussion en cours. Le vrai enjeu des négociations, puisque M. le Président m'avait dit que c'était un point d'intérêt pour vous, c'est évidemment, et ce sera pour nous Français, mais pour l'Union européenne, l'agriculture. Ce sera aussi le cas pour la Pologne, par exemple. L'Ukraine est un pays un peu plus grand que la France, mais surtout, c'est un pays qui a 50% de terres agricoles en plus par rapport à la France, et plus certaines de ces terres, le fameux Tchernozium, qui sont incroyablement productives et riches. 80% de la production ukrainienne est exportée. En France, la taille moyenne des exploitations agricoles est de 69 hectares. En Ukraine, les agro-holdings petites sont de 20 000 hectares. Il y en a de nombreuses qui ont plus de 360 000 hectares, c'est-à-dire la taille d'un département français, et la plus grande exploitation ukrainienne à 530 000 hectares. Donc évidemment, on est dans un monde totalement différent, avec des productions intégrées, où les impacts de normes sont évidemment très importants, notamment en termes de développement durable, de pollution des sols, et donc il y a un avantage de compétitivité prix énorme côté ukrainien, avec des acteurs évidemment très puissants, puisqu'ils ont un poids économique fort, et donc un risque pour nous d'éviction à la fois du marché national, mais aussi de nos marchés à l'export. On notera que même ainsi, d'abord il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre, et on s'emploie à faire venir des fédérations françaises de producteurs pour rencontrer les Ukrainiens, et mieux comprendre ce qui peut marcher ou pas. On s'emploie aussi à expliquer aux Ukrainiens, aux producteurs ukrainiens, que l'acquis est précisément acquis et qu'il n'y aura pas de changement profond de la politique de la PAC et qu'il faudra qu'ils s'adaptent. Et enfin, il y a des sujets sur lesquels on peut coopérer, par exemple les importations dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne importe beaucoup de soja américain. Ça peut être une production forte de l'Ukraine. L'Union européenne importe beaucoup de miel chinois et elle a beaucoup de besoin de lin, de chanvre, de biogaz et de bioéthanol qui pourrait parfaitement être couvert par l'Ukraine. J'en viens peut-être maintenant à la dernière partie de mon propos sur les perspectives d'un accord, puisque c'est évidemment ça qui est le plus intéressant, mais en même temps le plus évanescent, puisqu'on en parle, mais que ces perspectives ne cessent de se dérober. Et au fond, il y a deux vues depuis l'ambassade de France à Kiev, bien sûr, mais il y a deux facteurs, deux paramètres essentiels qui sont le temps d'une part et l'intensité possible des pressions sur la Russie. Deux facteurs pour que le mirage devienne réalité. Donc, les tentatives américaines, pour l'instant, elles ont d'abord une histoire. Il y a eu des précédents, notamment des négociations directes entre les Ukrainiens et les Russes en mars 2022, qui ont échoué après la découverte des massacres de Boutcha et d'Irpin, massacres qui ont choqué la conscience mondiale, mais en particulier, naturellement, les Ukrainiens, qui rendaient impossible un accord de ce type. Il y a eu un nouveau processus à Istanbul, avec une forme de soutien politique sans immixtion, mais en tout cas de fournir un cadre et un lieu par les autorités turques au printemps 2025, et puis depuis novembre 2025, le processus américain. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui se déclenchent. Évidemment, l'Ukraine se bat pour la victoire. La vraie question, c'est qu'est-ce que victoire veut dire, en réalité. Il est vraisemblable que... Il est évident qu'il n'y aura pas de défaite militaire russe. Voilà. Il est aussi évident que l'Ukraine, elle le reconnaît elle-même, n'a pas les moyens militaires aujourd'hui d'envisager de repousser militairement la Russie de tous les territoires qu'elle occupe en Ukraine. Et donc, une victoire pour l'Ukraine, en réalité, ça peut vouloir dire survivre dans un pays viable, ce qui veut dire contrôler Odessa, par exemple, avec un pays qui a une perspective européenne. Et par ailleurs, il y a un deuxième élément, c'est évidemment les éléments de défaite stratégique, non pas militaire, mais stratégique russe. On en a déjà parlé, mais la Russie pensait pouvoir faire exploser l'Ukraine. En réalité, elle a fait affirmer de façon frappante son unité. Elle a démontré son incapacité à mettre au pas une armée qui, normalement, n'était pas de sa classe ou de sa taille. Et par ailleurs, elle a permis l'élargissement de l'OTAN, y compris à des pays neutres, Finlande, la Suède. Et puis par ailleurs, il ne fait pas bon être un allié du président Poutine, qu'on s'appelle Bachar el-Assad, Maduro, ou bien Khamenei, le précédent guide suprême iranien. L'Ukraine, de son côté, a peu de marge. Alors c'est le rôle des hommes d'État, précisément, que de créer des marges. Mais elle a aussi beaucoup de lignes rouges, ce qu'on disait tout à l'heure, l'impossibilité de reconnaître des pertes territoriales des jurés, la limitation ou la taille de ses armées, et la nécessité, au fond, qu'un accord passe par un référendum, ce qui rend les choses assez difficiles. Donc on voit bien qu'intellectuellement, il y a un certain nombre de formules possibles autour des gels de combat sur la ligne actuelle, plus des retraits russes dans les oblasts qu'elle ne revendique pas. Et puis il y a la question difficile de qu'est-ce qui se passe dans les parties de l'oblast de Donetsk, 18%, un peu moins de 20% de l'oblast de Donetsk, où la Russie n'occupe pas encore le terrain et où il faudrait donc que les Ukrainiens envisagent de se retirer, mais à condition de trouver une formule qui permette d'être certain que les Russes n'occuperaient pas ces positions et ces forteresses qui ensuite donneraient la clé d'avancée ultérieure, ce qui est tout à fait possible diplomatiquement, mais évidemment compliqué. Enfin, il y a la question des garanties de sécurité pour que l'Ukraine ait la garantie que ces conditions difficiles hein, par rapport à la perspective d'un retour aux frontières de 91, qui évidemment est inaccessible, que ces garanties de sécurité soient viables, et d'où la proposition de la coalition des volontaires de déploiement d'une force multinationale. Donc la situation actuelle, c'est qu'au fond, il y a un processus de négociation. Le simple fait qu'il existe en soi est évidemment positif. On a quand même beaucoup de chemin qui a été fait depuis la scène pénible du bureau ovale du 28 février 2025 avec les États-Unis. Le côté négatif, c'est qu'on voit bien que, au fond, les Américains n'exercent pas suffisamment de pression sur la Russie pour pouvoir avancer dans cette direction, que les Ukrainiens, de leur côté, n'ont pas suffisamment de marge pour pouvoir donner aux Russes ce qui paraît un minimum pour eux, et que, à ce stade, assez peu de progrès, en réalité, sont faits. L'impact de la guerre dans l'étroit d'Ormuz, évidemment, n'aide pas, ni le fait que les négociateurs américains sont en fait les mêmes et donc sont accaparés par la guerre avec l'Iran, ce que je crois que tout le monde peut comprendre. Dans ce contexte un peu compliqué, il y a un élément de calendrier important, c'est la date des élections des midterms américaines en novembre, et donc sans doute la nécessité pour le président Trump qu'il se passe quelque chose avant, soit qu'il obtienne un accord, soit qu'au contraire il se retire. Évidemment, la difficulté de tout ça, c'est qu'après novembre, précisément, on entre dans l'hiver et que le président Poutine peut être tenté de se dire qu'après tout, peut-être que ce serait plus facile pour lui, ou peut-être plus positif pour lui, de compter sur l'hiver et sur la pression supplémentaire sur le système énergétique et de chauffage ukrainien pour retarder pour les choses et qu'au fond, qui sera en meilleure position pour négocier au printemps 2027 plutôt qu'à l'automne-hiver 26. Donc, tout ça ne plaide pas pour qu'il se passe quelque chose de très rapide, mais évidemment, tout ça peut changer. J'en viens peut-être à ma conclusion. Au fond, on a quand même le sentiment que beaucoup de choses, des éléments fondamentaux de la déconstruction et de la reconstruction de l'ordre mondial se jouent en Ukraine, et que l'Ukraine a été un peu le catalyseur d'une approche américaine de l'ordre mondial qui est sans doute extraordinairement différente désormais, et que beaucoup de choses dépendront aussi de la façon dont cette crise se terminera. Il y a des conséquences évidentes pour la sécurité de la France et pour celle de l'Europe qui vont très au-delà de l'Ukraine. La pression russe, le fonctionnement des drones, les attaques asymétriques informationnelles russes contre nous, la rhétorique nucléaire avec un changement de posture russe dans ce domaine qui a été parfois vu comme un abaissement du seuil. Et puis surtout, d'un système international de 1945 évidemment complètement affaibli par la paralysie du Conseil de sécurité et la nécessité de rebâtir une architecture européenne de sécurité après la guerre qui ne pourra pas être un simple retour au bon vieux temps et qui en même temps devra prendre acte de la présence de la Russie qui restera importante. Un élément de contexte qui me semble important, qui aura aussi un impact très important sur l'Ukraine, c'est ce qui se passe dans le Golfe. Au fond, parfois, on lit des parallèles intéressants avec la crise de 1956 à Suez, et peut-être que ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui, mais on le verra, sera un moment où on verra une forme de limite à l'hyperpuissance américaine, à cette aptitude assez unique à s'imposer, quelles que soient les conditions. Alors évidemment, les choses sont très différentes, puisqu'à Suez, en 1956, d'autres superpuissances, à l'époque les Américains et l'URSS, s'étaient imposés par rapport à la France et au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, dans le Golfe, la Chine n'est pas en train de pousser les Américains dehors. Mais en revanche, il peut y avoir des limites intrinsèques économiques à l'action américaine. Et donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est au fond, est-ce que nous allons vers un équilibre westphalien des puissances, ou bien est-ce que c'est la compétition des empires ? En réalité, une approche un peu impériale n'a pas l'impression de fonctionner, ni en Ukraine, et côté chinois, on ne bouge pas beaucoup non plus. Enfin, tout ça est extrêmement mouvant. La voix de la France est singulière dans ce contexte, ces enjeux sont majeurs naturellement pour nous. La décision stratégique de doubler les moyens militaires français de 2024 à 2030 est évidemment fondamentale pour donner à la France le moyen de peser dans un monde où, de plus en plus, le recours à la force, ou la menace du recours à la force, ou la perspective de recours à la force est au cœur de la grammaire diplomatique, évidemment. Mais là, c'est la limite du diplomate qui s'exprime, c'est que, au fond, c'est frappant de voir que les Français soutiennent la perspective de renforcer l'effort à la fois national mais aussi en Ukraine. Après, il reste la question politique qui est de comment répartir cet effort et comment le financer, qui pour le coup n'est pas une question de diplomate mais qui reste une question absolument fondamentale et qui au fond est aussi une question pour l'Europe et pour l'enjeu européen du réveil de l'Union européenne que nous avions appelé de nos voeux et qui aujourd'hui se réalise d'une certaine façon mais qui reste évidemment extrêmement instable. Je voudrais terminer en donnant un exemple de l'importance en termes de sécurité pour nous, en fonction des garanties de sécurité et surtout de la perspective ukrainienne de savoir si un cessez-le-feu serait durable ou pas. Je parlais avec un chef d'entreprise qui est de mes amis en Ukraine, ils emploient 5 000 employés. Et il me disait, au fond, j'ai plein d'employés brillants,
Ils sont trentenaires, ils ont des familles, et ils ont deux plans. Ils ont un plan A, après le cessez-le-feu, si tout va bien, ils vont me demander de l'argent, parce que je suis banquier, c'est le représentant de la BNP Paribas sur place. Ils vont monter des business, ils sont très bons, ils sont bien formés, ils parlent les langues, ils vont réussir, je vais leur prêter de l'argent. Et ces gens, ils veulent la même chose que nous. Ils veulent la réforme, ils veulent l'entrée dans l'Union européenne, ils veulent le libéralisme économique et politique. Et puis, ils ont un plan B. C'est que s'ils estiment que la situation n'est pas assez stabilisée, s'ils ont un fils qui a 15 ans et qu'ils se disent que bah, peut-être que dans 5 ans, voilà, les Russes reviendront, bah, ils vont partir. Et quand ils vont partir, et ils pourront partir d'abord, parce qu'il y aura cessé le feu, donc on aura fait la loi martiale, ils sont bien formés, ils parlent les langues, ils pourront partir. Mais dans ces cas-là, qui restera ? Il restera des gens qui ont un autre agenda. Et cet agenda sera la revanche contre la Russie. Je ne dis pas que cet agenda serait illégitime politiquement. Mais ces gens-là ont notre objectif, naturellement. Cet objectif, ce n'est pas forcément d'abord l'entrée dans l'Union européenne et la réforme. Et donc cette situation-là est évidemment grosse potentiellement de danger pour nous. Et c'est ce qui fonde, je crois, diplomatiquement et politiquement, la nécessité que nous soyons en capacité de proposer des garanties de sécurité sérieuses à l'Ukraine. Voilà. Je voudrais rendre hommage aux agents de l'ambassade, aux agents de l'État, expatriés, militaires, les civils qui découvrent une culture qui n'est pas exactement la leur, moi y compris d'ailleurs, et qui s'adapte. Mais tout particulièrement, Monsieur le Président, je sais que vous êtes sensible, les recrutés locaux, ces hommes et ces femmes ukrainiens qui travaillent pour nous, qui servent sous le drapeau bleu-blanc-rouge, parce que quand il y a des bombardements en Ukraine, parfois on peut être un peu inquiet pour soi, mais c'est quand même pas grand-chose par rapport aux gens qui sont inquiets pour leurs enfants. Voilà, et je pense que ça vaut la peine d'être salué. Je terminerai en mettant en parallèle, finalement, et en miroir, deux citations. Le célèbre poète Taras Shevchenko, le poète ukrainien qui a donné son nom à l'université et qui est très, 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 très aimé. « Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. » Donc il y a une dimension assez romantique, mais c'est un moteur très puissant en Ukraine. Et au fond, je crois que ça fait écho à la vieille leçon, et la vieille et rude leçon de Périclès, qu'il est intéressant de citer ici. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, cher Gaël. Je crois que toute l'Académie rejoint les vœux exprimés à l'instant par Gaël à l'égard de tous ses collaborateurs qui, comme lui, risquent leur vie au service de la France, au service de la présence française en Ukraine et au service d'un avenir que nous rêvons, comme celui qu'il vient de nous décrire, dans une description volontariste du processus de paix.